libre d'être libre.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclame.
Vive la commune !
Et 10 millions de bonne foi, quel est cet état social ? L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux les traînent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Alors bonjour Laure Godino.
Bonjour.
Donc on va parler des élections de la commune. On peut commencer par rappeler rapidement le contexte qui mène à ces élections.
Alors il y a eu l'insurrection du 18 mars et le 18 mars le gouvernement quitte Paris pour Versailles et donc Paris est aux mains du comité central de la garde nationale. Que décide le comité central de la garde nationale d'organiser des élections municipales, donc communales, pour élire une assemblée communaliste qui aurait le pouvoir légitime. Il y a plusieurs dates pour ces élections et finalement, ces élections ont lieu le 26 mars 1871. C'est les élections au conseil de la commune.
Les maires décident de se rallier au comité central et publient une affiche commune.
Voilà, alors certains maires, les maires les plus opposés et la garde nationale de l'ordre finalement abandonnent la résistance. Mmh. La plupart des maires appellent aux élections pour calmer le jeu et même un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale, les républicains évidemment, républicains radicaux, appellent aux élections. Au fond, on ne sait pas très bien quels résultats vont avoir ces élections et surtout quel sens leur donner. Certains pensaient que ça serait des élections uniquement municipales pour donner des pouvoirs particuliers à Paris puisque Paris n'avait pas de pouvoirs municipaux clairs et affirmés. Et pour d'autres, la commune, c'est un aspect révolutionnaire. Il y a un certain nombre de modérés qui se sont présentés à ces élections, qui ont été élus et qui ont démissionné tout de suite dès le 26 mars quand ils ont compris ce que voulait dire la commune.
Ou qu'ils ont déjà quitté d'ailleurs
Paris. Ou qui ont déjà quitté Paris suite à l'insurrection et au fait que le gouvernement a quitté Paris avec tous les services, les hauts représentants de l'administration. Mais il y en a qui restent pour des raisons factuelles aussi pour voir ce qui va se passer. Il y en a qui restent pour garder la boutique et qui ne vont pas voter. Il y a environ 90 sièges à pourvoir. C'est en fonction du nombre d'habitants par arrondissement. Au résultat, il y aura 75 élus. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les modérés qui ont démissionné. Enfin, les modérés, très modérés, qui ont démissionné tout de suite. Ensuite, comme on pouvait se présenter dans plusieurs arrondissements, il y a des gens qui ont été élus plusieurs fois dans plusieurs arrondissements. Donc, évidemment, ils doivent choisir un arrondissement.
On a à peu près 70 élus.
Oui.
De la commune.
Oui.
Est-ce qu'on sait un peu comment la campagne s'est passée ? Je sais qu'il y avait des listes socialistes révolutionnaires qui s'étaient déjà présentées pour les élections à l'Assemblée nationale. Donc il y avait déjà un semblant d'organisation.
Bah là, en fait, ceux qui ont été élus, ce sont essentiellement des gens qui étaient connus avant, qui étaient connus soit dans les réunions publiques, soit dans la garde nationale, soit parce qu'ils animaient l'extrême-gauche révolutionnaire. Donc en fait, il y en a qui, pour nous, sont totalement inconnus, et qui le resteront d'ailleurs, mais qui étaient connus dans leur quartier, parce qu'animateurs de réunions publiques, parce que membres de la garde nationale. Les réunions publiques qui sont autorisées, effectivement, en 1868, c'est dans le cadre de la campagne électorale, aussi pour les élections de 1869, donc toujours sous le Second Empire. Ça, c'est la première chose. Et puis, lorsque la Troisième République a été proclamée donc en 1870, en septembre 1870, à partir de ce moment-là, et dans le cadre du siège de Paris qui commence en septembre 1870, là, on voit à Paris se multiplier les clubs. Mais il y a une différence entre les réunions publiques et les clubs. Ouais. Les réunions publiques, c'est vraiment l'autorisation sous le Second Empire. Mmh. Donc effectivement, à partir de là, on voit se développer l'extrême-gauche révolutionnaire et elle davantage s'exprimer. Et puis, il y a les clubs qui se développent véritablement à partir de l'automne 1870 et puis pendant tout l'hiver 1871. Club de quartier, où la parole est totalement libre. En fait, Paris, sous le siège, commence à être... à voir se développer ces clubs et puis commence à voir aussi des comités locaux se créer dans les quartiers. Donc là, il y a une véritable agitation à Paris. Mmh.
Donc on a d'un côté d'abord les réunions publiques, ensuite la création de clubs politiques, et puis au fur et à mesure aussi, de façon distincte visiblement des clubs politiques, des assemblées de quartier qui se développent. Il me semble que c'est les comités de vigilance.
Oui. Alors voilà. Il y a ces fameux comités, en fait il y en a plusieurs qui ont des dénominations différentes. Alors il y a les comités de vigilance, effectivement, comités de vigilance des 20 arrondissements de Paris, mm-hmm. Donc des comités de vigilance dans les arrondissements qui sont chargés de surveiller en fait, en particulier les mairies d'arrondissement, mm-hmm. Et les maires, et puis voir comment ça fonctionne, et qui appellent d'une part à la résistance à outrance, c'est-à-dire résistance contre l'ennemi prussien, et puis appel à des sorties pour forcer le siège, et en même temps appel au maintien de la République, donc ce sont des comités républicains pour essayer de maintenir cette République. Et enfin, troisièmement, il y a aussi pour certains un aspect social, mais ce qui prédomine, c'est vraiment la résistance à outrance, et puis le maintien de la République, la vigilance vis-à-vis du maintien de la République.
On disait tout à l'heure, on élit 70 candidats. Quelle est l'origine sociale de ces élus de la commune de Paris ?
Alors, sur la composition sociale, on a beaucoup parlé de gouvernement ouvrier. De fait, il y a sur les 75, et puis après, il y en aura un peu plus puis avec les élections d'avril, il y a une trentaine d'ouvriers. Ceci dit, il faut faire attention à ce terme d'ouvrier, parce que ce sont en grosse partie des ouvriers qualifiés, ce qu'on appelle les ouvriers de métier, des ouvriers des métiers d'art de Paris, qui sont très proches du petit patronat, en fait, et ils ne sont pas du tout l'ouvrier de type moderne tel qu'on peut l'imaginer. Ouvriers proches de l'artisanat, qui sont instruits et qui ne sont pas considérés comme des prolétaires. Juste pour prendre un exemple, Eugène Potier, l'auteur de l'International, qu'il écrira en juin 1871, a commencé comme ouvrier, et puis ensuite il est devenu dessinateur sur étoffe, donc il fait des impressions sur étoffe, et en 1871, c'est un petit patron, il a une maison de dessin sur étoffe qui est une maison extrêmement réputée, donc on voit très bien comment il est passé de ce métier très proche de l'artisanat au petit patronat, mais qu'il a encore à une définition qui est probablement différente de celle qu'on imagine aujourd'hui. Voilà. Donc c'est beaucoup d'ouvriers avec ces caractéristiques qui les rapprochent en fait beaucoup plus de la première moitié du 19e siècle.
Comme ça, pour comparer, il y a déjà un certain nombre de manufactures se rapprochent de la taille industrielle. Oui.
Alors, industriel, qui sera... En tout cas, effectivement, on est dans une période de transition qui est liée à l'industrialisation du Second Empire, essentiellement. Et effectivement, à Paris, il y a des grandes manufactures, ce qu'on appelle les grandes manufactures, c'est-à-dire plus de 100 ouvriers, en particulier dans les constructions mécaniques, dans la construction de locomotives. Et ces grandes manufactures sont essentiellement à la périphérie. Alors, ce qu'on appelle la périphérie, ce sont en fait les arrondissements qui ont été rajoutés à Paris, si je peux dire comme ça, en 1860, donc au moment de l'annexion des communes périphériques et de la constitution du Paris haussmannien tel qu'on le connaît maintenant. On trouve à Grenelle et à la Villette des entreprises de construction mécanique de locomotives. Il y a Caille, il y a Gouin, là, qui emploie effectivement un nombre beaucoup plus important d'ouvriers. Donc on est vraiment dans une période de transition. C'est la même chose d'ailleurs pour le commerce, puisqu'on est dans l'époque des grands magasins qui se sont apparus et se sont développés sous le Second Empire. Et en même temps, il y a les petites boutiques, la petite échoppe, et puis aussi vous avez des ouvriers, artisans qui travaillent à domicile pour justement ces grands magasins. Donc par exemple les cordonniers ou bien tout ce qui concerne le textile. Donc c'est effectivement une structure assez complexe qui est liée à cette période de transition, avec quand même, malgré l'existence de ces grandes manufactures, une prédominance des petits ateliers encore.
Donc on a dit, il y a un certain nombre de ces ouvriers, on a précisé là ce que ça voulait dire d'être ouvrier à Paris à cette époque-là. Il y a aussi beaucoup d'élus de la commune qui ne sont pas forcément des travailleurs manuels, qui viennent aussi de couches plus aisées de la population.
Alors effectivement, donc il y a une grosse partie de travailleurs manuels, mais il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre d'anciens instituteurs. Alors je dis anciens instituteurs parce qu'en fait, ils sont instituteurs, mais comme ils ne voulaient pas prêter serment à l'Empire, ils ont été révoqués. Donc ce sont des lettrés, mais qui ont été employés ailleurs finalement, comme comptables, dans diverses compagnies où ils utilisaient leur qualification de lettrés, entre guillemets. C'est ce que Vallès appelle les blouses blanches, hein, à côté des blouses des ouvriers dont on a précisé la spécificité. Il y a ces fameux blouses blanches qui peuvent être des employés, qui peuvent être des fonctionnaires, qui peuvent être de vrais lettrés comme Vallès, qui peuvent appartenir à ce qu'on appelle la bohème parisienne, c'est-à-dire cette jeunesse étudiante qui est en opposition à l'Empire dans les dernières années. Il y a même des artistes, puisqu'on sait qu'il y a Courbet, hein, donc, qui est membre de la Commune, qui sera élu le 16 avril aux élections complémentaires. Il y a des chansonniers, hein, il y a Jean-Baptiste Clément, qui est déjà connu pour ses chansons, notamment Fournaise, et puis le fameux Le Temps des Cerises, qui est déjà connu, hein, puisque la chanson, en fait, date d'avant la Commune, date de 1867. En fait, c'est assez mélangé, hein, ce Conseil de la Commune.
Il y a aussi beaucoup de journalistes, il me semble.
Oui, alors les journalistes, donc c'est, là encore, c'est difficile de donner des qualificatifs précis, parce qu'il y a des journalistes qui travaillent à temps plein dans la presse, et puis il y en a qui ont été ouvriers et qui sont devenus journalistes, en particulier dans le journal de Rochefort, La Marseillaise, créée en 1869. Donc La Marseillaise de Rochefort, en fait, emploie beaucoup de gens qu'on retrouvera sous la Commune, et parmi eux, il y a des lettrés, il y a aussi des ouvriers qui donnent leur avis sur l'évolution économique et sociale. Après, c'est difficile de distinguer journalistes, non-journalistes, etc., puisque, ouais, en fait, il y a beaucoup de passerelles entre les différentes fonctions et métiers.
Donc, on a vu l'origine sociale de ces élus du 26 mars. Moi, je voulais poser la question. Il y a beaucoup de tendances politiques différentes qui sont représentées. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça.
Alors, traditionnellement, on distingue différents courants politiques. On distingue les blanquistes, les jacobins, les internationalistes, les républicains rouges. Et puis, un certain nombre de gens qu'on n'arrive pas à classer. Donc, tout ça est assez complexe. Donc, les probablement les plus clairement identifiables sont les blanquistes. Alors, les blanquistes sont les disciples de Blanqui, l'éternel enfermé, hein, celui qui a participé de pratiquement toutes les luttes du 19e siècle. Blanqui ne fait pas partie de la Commune parce qu'à ce moment-là, il est d'ailleurs emprisonné.
Je crois qu'il est arrêté le 17 mars.
Voilà, donc, il ne fera pas partie des membres de la Commune, mais il y a ses disciples qui sont souvent des jeunes, de jeunes étudiants, mais pas que, qui pensent donc qu'il faut une avant-garde révolutionnaire qui doit faire la révolution, donc action armée révolutionnaire par une avant-garde qui établira cette dictature en attendant la maturité du peuple. Donc là, il y a les blanquistes. Ils sont à la fois proches et se distinguent des jacobins. Ils sont proches des jacobins parce que les jacobins pensent également qu'il faut un État fort. Mais ce qu'on appelle les jacobins, entre guillemets, font davantage référence à la Grande Révolution française, en particulier à 1793, à l'an 2, et insistent, eux, surtout sur la nécessité d'une révolution qui soit menée par cet État fort. En revanche, ils n'ont pas cette idée de l'avant-garde armée. Dans les blanquistes, on trouve quelqu'un comme Raoul Rigaud, par exemple, qui fait partie des plus jeunes de la Commune, hein, qui a 24 ans en 1871. Et puis dans ce qu'on appelle les jacobins, entre guillemets, on trouve quelqu'un comme Charles de Lécluse, qui lui a une soixantaine d'années et qui a été actif dès la Monarchie de Juillet dans l'opposition républicaine. À côté donc des blanquistes, des jacobins, il y a ce qu'on appelle les internationalistes, entre guillemets. Alors ce membre de l'AIT, de l'Association internationale des travailleurs, qui a été créé en 1864, qui a un bureau parisien en 1865. Les internationalistes, eux, sont plutôt favorables d'abord au changement social, avant le changement politique, et surtout à la mise en place du mutualisme associatif, c'est-à-dire donc des associations ouvrières, et l'association ouvrière dans le domaine économique et social, donc association ouvrière de production notamment, doit être la base, et à partir des associations ouvrières doit se mettre en place l'association en politique, avec les communes et les fédérations de communes, et puis la République serait la fédération des communes de France. Donc on voit bien qu'on part du social social et qu'on monte comme ça progressivement aux politiques. Eux, ce qui leur importe, c'est véritablement ce mutualisme et ce changement social. Ceci dit, il y a des membres de l'Internationale qui sont blanquistes, comme Duval. Donc là encore, hein, ce ne sont pas tous les membres de l'Internationale qui sont, entre parenthèses, internationalistes ou plutôt mutualistes. Ou en tout cas, il y a des passerelles là encore des uns aux autres et une assez grande complexité. Mmh. Et puis, il y a ce qu'on appelle les républicains rouges, qui sont assez difficilement, enfin qu'on peut difficilement classer. Par exemple, Vallès, finalement, est assez difficile à classer. Il est favorable à cette république démocratique et sociale sans qu'il fasse partie, sans qu'on le désigne comme blanquiste, jacobin ou bien internationaliste. Voilà, D'accord. Donc c'est essentiellement les groupes qu'on distingue dans la commune.
Le dimanche 26 mars est un renouveau. Paris respire, comme au sortir des ténèbres ou d'un grand danger. À Versailles, les rues sont sinistres. Les gendarmes tiennent la gare, exigent brutalement des papiers, confisquent les journaux parisiens et au moindre mot de sympathie pour la ville, vous arrêtent. À Paris, on entre librement. Les rues sont vives, les quartiers bruyants. Le même gamin crie « Le Paris Journal et la Commune ». Le peuple n'a plus de colère, n'ayant plus de crainte. Le bulletin a remplacé le chasse-pot. L'adhésion, la convocation des maires firent voter les quartiers bourgeois. Les élections devenaient légales, puisque les fondés de pouvoir du gouvernement les avaient consentis. 287 000 Parisiens votèrent. Scrutin sincère d'un peuple libre, ni police, ni intrigue aux abords des salles, contrairement aux habitudes de l'Empire. Le 28 mars 1871, 200 000 Parisiens vinrent à l'hôtel de ville installer leurs élus. Les bataillons, tambour battant, le drapeau surmonté du bonnet phrygien, la frange rouge au fusil, descendirent par toutes les rues sur la place de la Grève, comme les affluents d'un fleuve gigantesque. Au milieu de l'hôtel de ville, contre la porte centrale, une grande estrade est dressée. Le buste de la République, rayonnant de rouges faisceaux, plane et protège. 100 bataillons défilent sur la place ensoleillée, tandis que ceux qui n'ont pu pénétrer s'allongent sur les quais, rue de Rivoli, boulevard Sébastopol. Les membres du comité central et de la commune, l'écharpe rouge en sautoir, viennent d'apparaître sur l'estrade. Le bruit s'arrête un instant et Ranvier, élu du 20e, prend la parole. Le comité central remet ses pouvoirs à la commune. Les acclamations se mêlent au vacarme des tambours. 200 000 voix reprennent la Marseillaise, ne veulent pas d'autres discours. À peine si Ranvier, dans une éclaircie, peut jeter « Au nom du peuple, la commune est proclamée !» Un seul cri répond, fait de toute la vie de 200 000 poitrines. « Vive la commune ! Vive la commune ! Vive la commune !» Le grondement lourd des canons, à intervalles réguliers, salut la révolution.
Alors, donc les personnages représentatifs, on parle souvent de Varlin, fils de paysans pauvres. Il est né, autant que je m'en souvienne, en 1839. Il a une trentaine d'années en 1871. Donc Varlin est monté à Paris, il a fréquenté l'école primaire, il a fait un apprentissage de relieur chez son oncle et c'est devenu un relieur. Et là, on voit bien d'ailleurs ce type d'ouvriers hein, qui vont composer en majorité la commune de Paris, c'est-à-dire des ouvriers tout à fait proches de l'artisanat. Varlin est connu pour être un bon ouvrier relieur. En 1862, quand une partie des délégués ouvriers sont envoyés à l'exposition universelle de Londres. Varlin fait partie de ceux qui sont envoyés à Londres. C'est un internationaliste, donc il participe à la création du bureau de l'International à Paris en 1865. Il anime la grève des relieurs dans les années 1860, autant que je m'en souviens, en 1864-65, et il fonde une association d'ouvriers relieurs dans ces années. Il est donc actif dans tous les mouvements en faveur de l'association ouvrière, il est actif donc dans ce qu'on appelle l'extrême gauche révolutionnaire à Paris, et donc il va être élu à la Commune. Il est actif aussi dans ce qu'on appelle les marmites sociales, donc c'est un véritable personnage connu à Paris, et il est aussi connu parce qu'il sera victime de la répression en 1871. Donc il sera lynché et exécuté en 1871.
Juste pour préciser, les marmites sociales, En fait, il fait partie, il me semble, avec Benoît Malon, de ces militants de l'Internationale qui ont organisé le ravitaillement alimentaire du peuple parisien sous le siège, en fait.
Voilà.
C'est ça, c'est ça.
Les
marmites sociales.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Benoît Malon, on le retrouve aussi à la Commune, hein, d'ailleurs. C'est aussi un ouvrier de l'Internationale. Alors lui également est un fils de paysan pauvre qui est monté à Paris. Il a d'abord été ouvrier teinturier. Il anime une grève à Puteaux. Il fait partie des premiers membres de l'Internationale. Puis on le retrouve animant des grèves et représentant d'ailleurs la Marseillaise, donc le fameux journal de Rochefort en 1869, à la grève du Creusot, donc en 1870. C'est un militant connu, autodidacte. Il fréquente Varlin d'ailleurs, à Paris et en particulier dans le 17e arrondissement. Il aura une action sous la Commune. Il veut développer les associations ouvrières de production. Donc, il est favorable au mutualisme, ce qu'on appelle à ce moment-là le collectivisme anti-autoritaire. Hein, donc, c'est-à-dire le collectivisme, mais pas de domination de l'État ou de domination par le haut. Et puis, lui ira en exil en Italie et en Suisse, partira en exil. Et quand il reviendra en France après l'amnistie de 1880, il fera partie de ce qu'on appelle les socialistes réformistes.
Il fait partie des militants qui sont élus à l'Assemblée nationale sur les listes socialistes révolutionnaires.
Ouais, il me semble. Ouais. Et donc, ce qui montre bien d'ailleurs l'itinéraire de cet autodidacte. Hein. Il est élu effectivement à l'Assemblée nationale sur les listes socialistes. Il y en a très peu qui sont élus dans ce cas-là. Et il démissionnera lorsque seront signés les préliminaires de paix. Figure de blanquiste, donc j'ai parlé de Raoul Rigaud, qui est un jeune étudiant. Je me demande si c'est pas lui qui a tenté Polytechnique, puis qui se dévoue à la cause blanquiste dans les années 1860. Donc il fait partie de cette jeunesse étudiante des années 1860 et des combats blanquistes. Raoul Rigaud donc sera élu à la Commune et on le retrouve à la fameuse ex-préfecture de police, c'est-à-dire que les communards voulaient supprimer la préfecture de police qui représentait l'ordre ancien. Et finalement, donc, au lieu de la supprimer, ils l'ont simplement dénommé l'ex-préfecture de police. Raoul Rigaud, avec les blanquistes, d'ailleurs un certain nombre d'autres blanquistes, est vraiment à la tête de cette ex-préfecture de police. Et il est très anticlérical, et c'est lui qui mène aussi la répression, il faut bien le dire, pendant la Commune, avec les arrestations de prêtres ou les arrestations de réfractaires, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas s'engager dans la garde nationale. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes hein, sur Raoul Rigaud, qui est vraiment un personnage. Déjà, donc, il fréquente les cafés du quartier latin avec Vallès, avec Courbet, avec tous ceux qu'on retrouvera en partie sous la Commune, à la fin du Second Empire. Et il est déjà connu pour connaître parfaitement le système de la préfecture de police. Donc, on dit qu'il fait des fiches sur tous les mouchards hein, pour les fameux Jacobins. Donc républicain, il y a cette figure de Charles de Lécluse, donc qui est un opposant à la monarchie de Juillet, qui donc est un 48ard, qui est un opposant au Second Empire. Pour cette raison, en fait, à partir de la fin des années 1860, parvient à retrouver Paris et qui va lancer un journal d'opposition à la fin des années 1860, donc qui est actif dans l'opposition à la fin des années 1860, qui est vraiment ce qu'on appelle un vieux de la vieille. C'est lui qui lance une souscription en faveur d'un monument à Baudin qui était mort sur les barricades en 1851. Et donc on le retrouve sous la Commune. Il a cette tradition républicaine, donc on reconnaît en lui le vieux républicain. Et il va mourir sur les barricades le 25 mai 1871, donc sur la fameuse barricade du Château d'Eau, c'est-à-dire la barricade de l'actuelle place de la République. Et tout le monde reconnaît que cette mort est presque sacrificielle, puisqu'il semblerait qu'il soit allé au-devant des balles. On peut aussi citer comme membre de la Commune Léo Frankel. Alors pourquoi citer Léo Frankel ? Parce que c'est un ouvrier hongrois. Enfin, il est hongrois d'origine. Or, c'est aussi ce lien entre la Commune et l'étranger. C'est important parce que c'est un gouvernement insurrectionnel qui a quand même un étranger parmi ses membres. Et qui a été élu, donc ça doit quand même aussi nous faire réfléchir sur les gouvernements et puis sur ce qui se passe actuellement. Donc il accepte un étranger hongrois parmi ses membres, alors ça permettra d'ailleurs aux anticommunards de dire que la Commune était cosmopolite et avait accepté des étrangers parmi elle.
Ce qui est évidemment une insulte
Ce qui est
terrible.
Une insulte pour les anticommunards avec cette idée de cosmopolitisme donc qui est odieux pour les anticommunards. anticommunards. D'ailleurs, ils confondent hongrois et allemands, puisque les anticommunards diront que Frankel était un allemand, donc l'ennemi allemand par excellence. Donc il y a cette confusion d'ailleurs entre étrangers, cosmopolites, allemands, enfin, qui existe chez les anticommunards et qui va encore accroître la légende noire de la commune. Léo Frankel, au contraire, pour les communards, c'est le symbole de cet universalisme de la commune. Léo Frankel est un internationaliste. Pendant la commune, il sera à la tête de la fameuse commission du travail et de l'échange, qui correspondrait, encore que les communards ne voulaient pas de ministère, hein, mais ça correspondrait au ministère du travail, disons, pour aller vite, à l'heure actuelle. Et Léo Frankel va essayer de développer, avec Malon d'ailleurs, à la commission du travail et de l'échange, les associations ouvrières de production, c'est-à-dire l'idée que les ouvriers s'associent entre eux et développent le travail entre eux, donc produisent entre eux. Et pour cela, donc, il va utiliser le fameux décret sur les ateliers abandonnés à partir d'avril, c'est-à-dire que des ateliers ont été abandonnés par les patrons qui avaient fui Paris. Donc il est question de réquisitionner ces ateliers pour y développer des associations ouvrières de production grâce au crédit de l'État. Ceci dit, la commune était très légaliste puisqu'il était prévu qu'on indemniserait les propriétaires de ces ateliers tout en développant les associations ouvrières de production. Et Léo Frankel jouera un grand rôle dans la volonté de développer ces associations ouvrières de production. Ceci dit, il n'aura pas le temps de le faire puisque la commune a été très, très brève.
Quand on pense maintenant, par exemple, à un étranger qui serait élu parmi les représentants de la commune aujourd'hui à Paris, ça paraît complètement fou. On a des grands débats sur le droit de vote des étrangers qui habitent ici, alors que là, on les élit carrément. Je voulais faire une remarque, il n'y a pas que à la commune, il y a aussi à l'Assemblée nationale, où par exemple, quelqu'un comme Garibaldi, qui est un patriote italien, a été élu à l'Assemblée régulière de la France au suffrage universel.
Il a été présenté sur une liste et il a été élu. Ceci dit, il n'a pas siégé parce qu'il voulait garder la nationalité italienne. Tandis que Frankel, lui, le problème ne se pose même pas. Il est hongrois, il est à la commune.
On ne l'a pas dit, il n'y a pas de femmes dans les élus de la commune.
Bien sûr, alors on a parlé des hommes de la commune.
Voilà,
il faut quand même dire qu'il n'y a pas de femmes élues, mais de toute façon, les femmes ne votent pas. Donc le suffrage, on dit que le suffrage est universel depuis 1848. En fait, il s'agit du suffrage universel masculin. Ce qui est autre chose. Et il n'est même pas envisagé que les femmes votent. Et d'ailleurs, la commune n'a même pas discuté de la question du vote des femmes. Il y a eu des femmes de la commune, mais ces femmes sont en fait présentes dans les clubs, elles sont présentes dans la gare nationale, elles sont présentes dans les quartiers, elles sont présentes dans des commissions aussi, puisqu'il y a des femmes, par exemple, dans la commission de l'éducation. Mais elles ne votent pas, elles ne sont pas élues. Et donc, on peut dire que pour ça, la commune est assez aussi représentative de son temps, hein, puisqu'au fond, la question ne se posait pas. Et probablement même chez certaines femmes communardes, la question ne se posait pas non plus. Il fallait mettre en place la République démocratique et sociale. La question du vote des femmes, pour certaines en tout cas, interviendrait après. Donc oui, ça c'est fondamental. Hein. Des hommes de la commune, mais pas de femmes.
L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendra avec ses camarades, riant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpre son drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse le fusil chargé. En combattant pour la commune, ils savent que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, L'insurgé se dresse le fusil chargé à la bourgeoisie écœurante. Il ne veut plus payer la rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, sur votre viande, qu'on dépaisse le dividende. Ouvriers, mineurs, paysans, devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.